Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue à tous dans la deuxième partie de notre interview avec Georges Eddy. Après nous avoir parlé de son enfance aux États-Unis et de ses années de joueur pro, nous allons maintenant parler avec Georges de ses années de journaliste. La suite de votre parcours, on le disait, après ces matchs, après le basket, c'est donc Canal. Vous arrivez donc en postulant parce qu'ils cherchent quelqu'un. Et vous vous retrouvez, donc un peu par hasard aussi, hein, si je ne dis pas de bêtises. Comment ça s'est passé? Vous avez envoyé une lettre, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, bon, ce n'est pas un hasard dans le sens que je me suis proposé. Oui. C'est ce que j'ai dit aux jeunes, ça c'est mon côté américain. N'hésitez pas à vous vendre, à mettre en valeur vos qualités. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne va le faire à votre place. Hein. Et j'ai passé ma vie à essayer de me vendre un peu. Et avec Canal, heureusement, ça a marché. Mais ce n'est pas vraiment un hasard. En fait, la chance, c'est que Bouffière, très grand personnage du basket français, vient me chercher pour jouer à Paris Racing. Donc, je suis à Paris. Je vois que Canal Plus va commencer à exister. Je vois qu'il propose de faire du sport américain. Donc, je m'abonne tout de suite. Donc, j'ai même l'abonnement 2 semaines avant que ça commence à diffuser les programmes. Mais je vois dans la documentation qu'ils vont faire la NBA, donc ça fait tilt dans ma tête. J'ai dit, bon, je parle à peu près correctement français et je pense qu'en 85 en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent mieux la NBA que moi. Et en plus, la télé, pourquoi pas? Peut-être que je peux gagner quelques sous à côté du basket.
Ça vous faisait rêver ou pas la télé?
Non. C'est vraiment le côté NBA qui me faisait rêver. À la limite, travailler en parlant de la NBA, ça pour moi, oui, ça serait un rêve. Parce que j'ai suivi ça depuis l'âge de 8 ans, tous les jours, quoi. À fond la caisse. Donc je me suis dit, bon, je joue à Paris, donc je suis sur place, je parle français. Et en France, il ne doit pas y avoir beaucoup de gens qui connaissaient la NBA aussi bien que moi à l'époque. Donc je mets ça dans une lettre à Charles Bietri. Qui ne me répond pas. Et en plus, j'aurais dû téléphoner derrière. Vous avez reçu ma lettre, monsieur, tout ça. Et en fait, j'ai laissé tomber. Et mes coéquipiers au Racing me disent, mais attends, t'es pas assez que nous. Ils vont prendre un Sénégal, un Dubisson, un international. Et toi, le grand public ne te connaît pas du tout. Donc je me suis rangé à cet avis et j'ai dit, oui, tu as raison, ça ne va pas marcher. Et 2 semaines avant le premier match, il m'appelle, il n'a pas trouvé quelqu'un d'autre. Les Dubissons, les Sénégal, tout ça, ils étaient occupés à jouer, ou ça ne les intéressait pas trop, ou ils ne connaissaient pas assez bien la NBA, surtout probablement. Donc il n'y avait pas vraiment d'autres consultants éventuels en main. Donc il me dit, écoute, on fait un match ensemble, si c'est correct, on fait un deuxième, si c'est nul, je vais chercher quelqu'un d'autre. Donc j'avais la pression totale sur le premier match et je m'entraîne devant ma télé à m'enregistrer pour essayer de voir ce que ça pourrait donner un commentaire dans le timing et tout ça. Et heureusement, après le premier match, Pierre Lescure appelle Bietri pour dire, ah, c'est cet Américain, il a un certain potentiel, il faudrait lui apprendre un peu le métier et travailler avec lui. Et je pense que ça peut faire l'affaire. Et donc, j'ai fait le deuxième, le troisième et tous les autres matchs pendant 32 ans après.
au tout début, vous commentez des matchs enregistrés.
C'est ça.
Est-ce que vous connaissez
en direct?
Alors, c'est ça, voilà.
C'est ça. En fait, c'est des matchs qui avaient lieu 10 jours avant parce que le temps que ça arrive par bateau pour avoir moins de frais. Donc, en fait, on diffuse des matchs qui ont 10 jours de retard, en différé et que j'ai personnellement remonté.
D'accord,
donc, j'ai visionné, déroché et monter le match avec un monteur. Et après, je l'ai commenté en direct avec Bietri. Bietri voulait qu'on soit en direct pour que tous les consultants et les journalistes apprennent à travailler en direct, parce qu'il espérait après faire plus de choses en direct, parce que c'est ça la télé. Hein. Mais bon, les premières années, c'était des matchs en différé.
Donc, vous connaissiez le résultat, c'était ma question, en fait. Donc,
oui, oui, vous, complètement. Vous connaissez, ouais. Ah, oui, 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 oui. Mais bon, le truc qui a plu, c'était mes connaissances. Bon, on parle toujours de mon accent. Bon, j'avais mon accent, je faisais des fautes de français, ça faisait un peu rire, et j'avais compris ça. Mais honnêtement, j'ai pas forcé là-dessus pour autant, ça venait naturellement, les erreurs. Mais par contre, les connaissances des joueurs et tout ça, là, les gens, ils ont vu, oh là là, si on aime ce truc, ce mec-là, il va m'apprendre des choses.
Mais alors, justement, dans une interview au Orlando Sentinel en 87, et je les remercie d'avoir laissé toutes leurs archives en ligne, parce qu'il y a beaucoup de choses sur vous, vous disiez, nous devons toujours nous rappeler que 99% des gens qui nous regardent ne connaissent rien des joueurs, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, donc nous les éduquons. À quel moment, dans votre carrière à Canal, vous passez de l'éducation à on parle à des gens qui connaissent le basket?
Bah, c'est avec Internet.
D'accord.
C'est d'abord le télé par satellite, mais c'est surtout Internet, parce que ça met toutes les informations que les journalistes possédaient exclusivement eux-mêmes avant, ça met toutes les informations à la portée de tout le monde. Donc, moi ça, c'est ce que j'explique souvent quand je parle aux jeunes journalistes en formation. Mon métier a changé. Au début, j'étais là pour faire découvrir, informer et faire aimer. Maintenant, je continue à faire aimer, mais je dois trier dans toutes ces informations et sélectionner pour nos téléspectateurs ce qui est le plus essentiel, le plus important dans tout cet amas incroyable d'informations disponibles à tout le monde. Donc, c'est un tri. Je suis là pour trier dans les infos et pour mettre la bonne info sur la bonne image au bon moment. Ça a l'air facile pour les gens qui sont à l'extérieur. C'est très difficile, ça va très vite. Et en fait, il faut avoir toutes les informations dans ton cerveau, avoir des tas de notes devant soi. Ça sert à rien parce que l'image sera partie le temps que vous regardez vos notes pour dire « Ah oui, qu'est-ce que je voulais dire sur celui-là ?»« Ah oui, oui, il était meilleur marqueur il y a 3 ans. » Mais bon, le temps de trouver l'info sur ta feuille, on part sur autre chose au niveau de l'image. Donc, en fait, il faut préparer tous ces trucs, mais il faut que ça soit dans vos têtes pour pouvoir être rapide.
Et alors, toujours en 87 au Orlando Sentinel, vous dites « Je suis très différent des commentateurs français parce que je suis très enthousiaste, un peu comme John Madden, donc qui est un célèbre commentateur de football américain. Les commentateurs français se prennent très au sérieux, ils se considèrent comme des journalistes, pas comme des fans, donc ils ont une approche froide, vous disiez stone-faced, à la Dan Ryder. Ça a changé quand même pas mal depuis, non ? On est plus entré dans l'ère du fan ces dernières années.
Oui, je pense que Canal+ a fait école, surtout. Des gens comme moi ou Thierry Ray sur le judo, bon, c'est d'abord Thierry Ray, d'ailleurs, qui a ouvert la voie à George Eddy de se lâcher davantage et d'être plus lui-même devant le micro. Parce que j'étais un peu bloqué les premières années. La rigueur de Bietri, AFP, information d'abord, on n'est pas là pour se mettre en valeur et tout ça, tu vois. ce qui était déjà une bonne école de formation. Mais après, avec le temps, j'étais content de pouvoir être davantage moi-même, plus de jeux de mots, plus de sens de l'humour. Et après, il y a cette histoire d'Internet qui fait que tout le monde a déjà plein d'informations à disposition. Et nous étions là plus pour analyser, en fait. Maintenant, en fait, mon kiff aujourd'hui, c'est tout à fait différent. C'est en fait, je fais le Basketball Champions League Final Four à Athènes, et je sais qu'en plus, on va avoir deux consultants en plateau avec un journaliste. Mon truc à moi, c'est de rester collé au match et d'analyser au fur et à mesure les tendances tactiques, techniques, les duels. Donc vraiment m'imprégner dans le match. Et même mon collègue, je sais que lui, il va donner plein d'informations sur les joueurs. Donc je suis drôlement... Au début, j'étais une sorte de consultant journaliste, et j'ai la carte de presse aussi depuis ces 32 ans. Et maintenant, je suis vraiment beaucoup plus dans un rôle d'analyste pur et dur. quoi.
Il y a une vraie évolution. Et c'est ça aussi qui permet de durer, peut-être. C'est que vous êtes adapté au fur et à mesure.
Oui, j'espère m'être adapté. J'espère surtout avoir progressé. J'espère que je parle moins, que je fais moins de clichés, badaboum, ma. Donc, ça vient de temps en temps. Mais je forçais trop là-dessus, on va dire, entre 96 et 2008. Tu vois, je me caricaturais un peu moi-même parce que je savais qu'il y avait certaines choses dans mes commentaires qui semblaient plaire au grand public. Et donc, je forçais un peu trop sur ces aspects-là. Et en fait, j'aurais dû continuer à évoluer comme quand j'ai évolué du côté AFP vers le côté Thierry Ray qui se lâche. Donc ça, c'était plutôt une bonne évolution. Et maintenant, j'ai une nouvelle évolution, je ne sais pas, depuis peut-être 10 ans maintenant, où je considère que je suis plus dans l'analyse et plus dans le tri de l'information.
Ça a été conscient, ce changement de style, se trouver ce juste
milieu? En fait,
c'est
venu naturellement. Mmh. Et après, en réécoutant certains commentaires, je me rendais compte. Et surtout, parce que j'ai quand même une grosse présence sur les réseaux sociaux depuis le tout début avec Xavier. Vers 98, les matchs à 3h du matin le vendredi de NBA sur Canal, on était les premiers à recevoir les questions sur Facebook et parler avec nos abonnés directement, à répondre à leurs questions pour remplir les temps morts qui étaient interminables. Et donc, c'était un peu le début de l'interactivité. Donc, à travers toutes ces évolutions, j'ai compris que moi aussi, j'étais en train d'évoluer et que j'avais intérêt à faire certaines choses. Par exemple, je gave beaucoup moins les téléspectateurs d'informations sur les joueurs. Je considère que s'ils sont là, surtout que le basket, c'est quand même une niche, s'ils sont là, pour la plupart, ils savent tout ça déjà. Par contre, là où je suis obligé de redevenir un peu journaliste grand public, c'est quand on fait l'équipe de France. Mmh. Là, il faut rappeler un peu le parcours de chacun parce qu'il y a plein de téléspectateurs français qui ne regardent que l'équipe de France parce que c'est l'équipe de France, quoi. Et eux, ils sont contents de revoir un peu le B.A.B.A. Et en plus, on parle des fois des centaines de milliers ou même des millions de personnes. C'était avec David Cosette notamment, on avait décidé qu'il faut savoir faire un peu un commentaire plus grand public dans ces occasions-là.
On parlait du style, vous le disiez, il y a une adaptation, il y a un travail, vous réécoutez, vous durez, vous renouvelez au niveau des plateformes, des réseaux, vous êtes plus présent sur les réseaux sociaux, sur Internet, vous avez une vraie curiosité à propos de tout ça.
Tout à fait.
Moi, je l'avais ressenti encore une fois quand on a commencé à travailler ensemble, vous m'aviez dit, voilà, il y a peu de gens au final sur Internet qui me voient beaucoup, qui me connaissent.
C'est surtout la jeune génération.
Voilà.
Et je parle avec des jeunes quand je vais en vacances à Manosque et je joue au basket avec le club local. Et en fait, tous les jeunes ne me connaissaient que à travers le Hoopcast ou à travers des choses qu'ils ont vues sur YouTube ou sur Internet. Alors malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus abonnés à Canal Plus aussi. En tout cas, je pense que le pourcentage dans la population doit être moindre qu'à une époque. En plus, sur Canal, on fait un peu moins de basket, il n'y a plus d'NBA, tout ça. Donc, à la limite, pour cette jeune génération qui aime la NBA, voir George Eddy travailler par rapport à la NBA, c'était sur Internet et les réseaux sociaux.
Et alors, question obligatoire, mais...
Ou les jeux vidéo.
Il y a beaucoup de jeunes. Ah oui, c'est vrai, NBA
Live. Je connais votre voix de EA, comment ça s'appelait ?
C'était NBA Live.
NBA Live avec EA Sports. Ouais. Là aussi, on a été très précurseurs parce que j'avais fait la toute première version française en allant à Vancouver dans leur siège pendant 4 jours pour mettre toutes les premières voix. Bon, maintenant, ils ont été dépassés par 2K. Ouais. Et je ne sais même pas si ça existe encore en France.
Je crois qu'il existait cette année encore, oui.
Ouais. Ah oui.
Le NBA Live,
NBA Live,
ils ont eu un peu de mal ces dernières années.
Il y a eu quelques années où ils ont arrêté et il n'y a pas de version française. Ils ne doivent pas avoir un marché suffisant. Ouais. Donc en fait, maintenant, ça c'est Internet aussi. Tout peut être en VO, tout peut être en anglais. Parce que la jeune génération était habituée à ça.
Et alors, Georges, on parlait donc de votre style, question obligatoire, j'allais dire. Sur votre accent, j'ai pas le choix parce que c'est la question, encore une fois, donc quand on a commencé à travailler ensemble il y a 1 an et demi, c'est la première question que les gens posent. Avant, il est sympa, c'est son accent est là ou pas en dehors de l'antenne.
Oui, et la réponse ?
Bah, la réponse est oui.
Oui, je parle comme ça tout le temps. En fait, j'ai vraiment commencé à travailler le français au lycée et à l'université pour gonfler mes notes. Mais j'avais des profs qui étaient des Américains avec des accents horribles. Mmh. et donc, bon, l'erreur que j'ai faite, c'est que ma mère voulait m'apprendre le français quand j'étais jeune et j'étais feignant et ma fille a fait la même chose avec moi par rapport à l'anglais. Et j'ai un peu refusé parce que c'était du travail et ça me fatiguait. Bon, après, j'ai appris le français, la lecture, le vocabulaire, tout ça, grâce à mes études universitaires et ça gonflait mes notes, donc c'était positif. Mais j'ai jamais vraiment pu m'imprégner de l'accent. Donc, j'arrive à 20 ans à Bagnolet et là, je me rends compte que je ne connais pas l'argot du tout. Je peux lire des livres, mais le langage de tous les jours, je ne connaissais pas. Mmh. Donc là, j'étais en plein apprentissage. Et en plus, j'avais cet accent américain qui me démarquait. À 20 ans, je me demande si ce n'était pas trop tard pour vraiment développer un super accent en français.
Après, ce n'est pas plus mal que d'avoir pris l'accent parisien.
Après, c'était un avantage.
C'est ça.
Après, j'ai compris que pour Canal+, c'était un avantage parce que vous diffusez des sports américains, avoir quelqu'un qui a des connaissances et qui a un accent américain pour parler français, forcément, ça fait plus crédible.
Et puis, c'est quand même un peu plus chantant et sympa que l'accent parisien. Il faut dire quand même.
Oh, c'est un peu... ouais, bah, c'est peut-être aussi parce que je parle avec enthousiasme et tout
oui,
ça.
Oui, aussi, c'est
donc,
vrai.
Donc, c'est l'accent, mais je pense que c'est la forme, l'enthousiasme et aussi le contenu avec les connaissances.
C'est vrai.
J'espère que tous ces éléments et pas seulement l'accent. Parce que j'ai dit toujours aux gamins, j'ai dit, écoute, si je n'avais que l'accent pour moi, j'aurais fait 2 ans et après, on en aurait eu marre de m'écouter. C'est pour ça que j'ai toujours essayé de renouveler ma façon de commenter, les informations que je donnais et progresser tout le temps, quoi. Un peu comme au basket. Et des fois, même à 61 ans, je vois des petits trucs sur les vidéos avec Steph Curry. Je dis, ah oui, ça, je vais essayer ça et je vais être plus adroit. À 61 ans, je me dis, oh, quoi ça, on peut apprendre à tous les âges.
Et c'est vrai que c'est pareil pour le boulot. Vous le disiez, vous n'auriez pas duré sans du travail. Et je me souviens que vous étiez un des premiers à nous conseiller régulièrement quand on faisait Loopcast de nous re-regarder, ce qui est une torture pour certains,
oui.
Mais qui est obligatoire quand on fait ce genre de choses.
Oui, et je le fais moins aujourd'hui, je ne peux pas tout regarder parce qu'en plus, au début, on faisait un match par semaine, donc on avait le temps pour revoir 3 fois et dire, là, j'aurais dû dire ça, là, c'est pas bon, là, je parle trop, là, je parle pas assez. Il y a 1000 trucs à dire. L'autocritique, c'est le plus important dans ce métier, mais il faut être lucide et pas se croire le meilleur. J'ai vu plein de consultants basket, et je ne les nommerai pas, qui sont passés entre nos mains parce qu'en 32 ans, on a vu tout le monde. Hein. Et tous ceux qui sont arrivés en pensant, oh, bah, j'ai fait une telle carrière, ça suffit pour être un consultant génial, c'est totalement faux. C'est bien d'avoir fait une grande carrière, mais c'est un autre métier et il faut savoir se préparer pour chaque match, chaque intervention, il doit y avoir une préparation spécifique.
On fait un petit interlude dans cette émission, Georges, encore une fois, et cette fois, on va entrer dans la 4e dimension, parce que c'est ce que je propose à tous mes invités dans cette émission, on rentre dans une dimension où le basket n'existe pas. Et je vous demande, qu'est-ce que vous faites de votre vie, du coup, s'il n'y a pas de basket ?
Ah, c'est une bonne question. Je pense que par rapport à tout ce que j'ai dit déjà, mon enfance, mes études, peut-être je serais devenu avocat. Je pense que j'aurais surtout lutté pour toutes ces causes que je considère comme importantes. D'ailleurs, quand je prends ma retraite, je me vois déjà dans le rôle de bénévole et pas uniquement dans un club de basket, mais même le secours populaire, des choses comme ça. Une fois, j'avais vu il y a 2 ans que la FN a retiré, le maire FN d'une ville a retiré les subventions au secours populaire local pour retirer leur local où ils distribuaient des repas. Et j'ai tout de suite fait un chèque. À ce secours populaire du coin. Parce que ce genre d'injustice, ça me tue, quoi.
Vous auriez eu de quoi faire, du coup. Hein.
Oui,
vous auriez
oui,
de quoi
oui.
vous occuper
oui,
sans
oui,
basket,
oui, c'est clair. Bon, en plus, je ne fais pas assez. Ouais. Mais quand je serai à la retraite et j'aurai beaucoup de temps, je vais mettre beaucoup plus de temps dans ces causes-là.
Vous y pensez à la retraite? Je rebondis là-dessus, mais on peut dévoiler votre âge, je vous l'ai dit tout à l'heure, 61 ans.
J'ai 61 ans, oui. Bon, je pense que d'ici 4 ans, les gens vont en avoir marre de m'entendre. Avec le vieillissement, j'aurai peut-être moins la pêche pour faire les voyages, etc., etc. Mais bon, pour le moment, j'adore toujours. Je reviens d'Athènes. Monaco est en finale du Final Four. J'ai vibré devant 20 000 spectateurs. Une ambiance de folie. J'ai eu un super coup d'adrénaline. Et je vais faire le championnat du monde féminin à Tenerife fin septembre, où l'équipe de France peut très bien être médaillée. Là, c'est du basket féminin. Mmh. Et là, je sais que je vais kiffer aussi. Donc, à la limite, parce qu'en fait, très honnêtement, j'ai pas besoin de travailler. J'ai mis plein d'argent de côté et j'ai vraiment envie de continuer par passion pour m'occuper. Parce que quand on est à la retraite, il faut savoir s'occuper aussi. Je sais que je vais voyager, etc., etc. Mais je pense à ça, mais en même temps, je suis très content de pouvoir encore participer dans ce monde audiovisuel à la promotion du basket et de tous les baskets d'ailleurs.
Vous avez justement 33 ans de carrière. Vous avez conscience, ou pas, ou alors est-ce que vous vivez votre vie, mais est-ce que vous avez conscience d'être une icône culturelle un peu quand même pour une partie de la population? Bah,
j'entends ça et ça me touche et ça me flatte. Mais bon, je vis vraiment dans le présent. Qu'est-ce que j'ai à faire demain comme boulot? Bon, je vais préparer Canal NBA pour le public africain sur Canal Plus Afrique. Je suis plus concentré là-dessus que de réfléchir par rapport au passé. Par contre, je suis ravi d'avoir joué ce rôle. Tous les jours, il y a des gens qui disent « Vous avez bercé mon enfance, c'est grâce à vous que j'aime le basket, etc. etc. » Donc, toutes ces choses-là, j'en suis ravi de les entendre. Et ce n'est pas le fait de les entendre tous les jours qui me lasse. Au contraire, ça me donne des coups de jus tous les jours pour continuer et pour essayer d'évoluer et progresser. Malgré mon âge et malgré cette longue carrière derrière moi.
Et je vous posais la question parce que j'ai l'impression, et on en a parlé un peu hors antenne avant, qu'on a parlé de vous dans quasiment tous ces épisodes de 48, en fait. On a parlé de vous avec Marie Patrice, on a parlé de vous avec Alex Biggerstaff, avec Kat Borziani, avec tout le monde, quasiment. Tout le monde a une anecdote sur vous, quasiment.
J'ai eu de la chance d'influencer profondément les carrières de certains. Biggerstaff était... stagiaire.
Oui, oui, il a raconté son histoire, voilà. Incroyable.
Kat Borziani, on l'a fait découvrir lors des 10 ans de Canal, quand il vient me voir et dit « Moi, je peux dunker de la ligne de lancer franc, je fais 1m78 ». J'ai dit « Ah bon ?» On avait Jabbar avec nous comme consultant. J'ai dit « Bah tiens, si, montre-moi, et si tu arrives à le faire, on va te passer à la mi-temps parce que ça va être bon pour notre public. » quoi. Ça l'a un peu fait connaître au début. Fred Weiss, bon, j'ai quand même commenté le dunk de Vince Carter à Sydney qui a fait le tour du monde. Et en plus, j'ai suivi sa carrière. Je l'ai même rencontré quand il avait 17 ans à Batavia. Batavia, parce que j'ai joué. Son père était coach ou joueur. Donc, j'ai joué contre son père avec Chalon en Champagne, en National 3, dans les années 70. Et plus tard, je l'ai croisé quand il était tout jeune. Et je l'ai vu aussi à Limoges, très jeune. Quand il était très très fort d'ailleurs, parce qu'on oublie que c'était un très fort attaquant avant de se faire mal au dos.
Un petit mot quand même, c'est le seul mot un peu moins agréable peut-être dans cette interview, mais je voulais vous entendre là-dessus. En 2012, Canal perd les droits de la NBA en France. Vous êtes toujours sur Canal Afrique, hein, on le rappelle.
Au moins, tu ne reviens pas sur mon clash avec Tony Parker de 2007.
Ah non, ça je n'avais pas passé ça.
Oui, parce que là, ça fait 11 ans maintenant, je pense qu'on peut oublier.
Non, mais en fait...
c'est le problème avec Internet, c'est que tu dis une connerie une fois et ça te suit le reste de ta vie. Donc, regardez, Denis Balbir, mon ancien collègue, à Canal, il faut faire très attention à ce qu'on dit quand on est en public. Hein.
Là, c'est pour des mots que vous avez eu en on, en l'occurrence, c'était au JDD, où vous aviez dit « j'ai assisté à mon propre enterrement
». Oui, mais je disais ça avec le sourire.
D'accord.
Parce que, en fait, quand je disais « j'ai assisté à mon propre enterrement », bon, j'étais très déçu de perdre les droits NBA, évidemment. C'était un cataclysme pour moi et tous mes collègues qui travaillaient sur le basket dans le groupe Canal, évidemment. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait tellement de louanges qui sont venus vers Canal et vers moi personnellement par rapport à ses 27 ans de commentaire NBA, il y avait des papiers pressés dans tous les journaux et même des quotidiens et tout ça. Moi, je ne m'attendais pas à ça et je pense que Canal ne s'y attendait surtout pas. Quand ils ont vu ce flot de louanges, ils se sont dit, ah, dis donc, on a peut-être perdu quelque chose qui était plus important qu'on croyait. Et après, le PDG de Canal m'a dit, c'était une de nos plus graves erreurs, parce que ça ne coûtait pas si cher par rapport au foot et au rugby. Ça remplissait l'antenne de Sport Plus. On aurait dû s'aligner et garder la NBA. C'était une grave erreur. Le PDG de l'époque m'a dit ça. Après, on a Bolloré qui dit, on n'aurait jamais dû arrêter Sport Plus. Donc, ça laisse des regrets, tout ça. Mais bon, il faut savoir s'adapter et évoluer. Et je suis heureux, j'ai dit pour rigoler, avant je commentais pour un pays, maintenant je commente pour un continent.
C'est
un
vrai.
Un continent africain. Et en plus, la NBA, c'est juste derrière le foot en popularité là-bas. Les matchs de dimanche en direct sont en prime time là-bas. On n'a jamais eu de prime time sur Canal+, ou très peu. Ouais. Sur Sport Plus, un peu le dimanche. Je sens que je travaille un peu comme au début de Canal, à la promotion de quelque chose qui grandit incroyablement vite. Et en plus, on fait toujours les questions pendant le direct avec nos abonnés africains, qui sont nombreux à nous poser des questions, qui sont nombreux à regarder les matchs. Le magazine est aussi qualitatif que ce qu'on faisait sur Canal+ France. Donc, tout ça, ça me redonne des coups de rajeunissement. Autant plus que les gens à Canal+ Afrique, il y a beaucoup de jeunes. Et c'est un peu comme quand on a démarré Canal ou Sport Plus. On voit un truc en train de se développer. Ouais, c'est sympa.
Vous y retrouvez du positif une nouvelle fois, en fait. Vous arrivez toujours à retrouver
du positif.
Oui, ouais.
C'est ce que j'ai toujours essayé de faire dans la vie. Parce que même dans ma carrière de basketteur, j'ai eu des grosses déceptions. Avec Bandurée, on est descendu. Avec Nice, on est descendu. Donc, il faut savoir rebondir. Il y a des saisons où je ne jouais pas et j'étais nul. À Nice en première division et la seule saison avec Paris en première division, je jouais très peu. Donc, c'est ça la vie. Mais bon, ça c'est l'éducation. Vous avez deux parents handicapés qui se battent tous les jours pour overcome, comme on dit en anglais, pour passer au-delà de ces limitations. Donc ça m'a donné un formidable exemple à suivre.
J'ai attendu la fin parce que encore une fois, on en avait parlé un petit peu quand je vous ai invité. Vous m'avez dit, bon, Jordan à Géo André, Jordan à nulle part ailleurs, j'en ai beaucoup parlé. Alors j'ai cherché autre chose et j'ai vu qu'en 93, vous avez trouvé une salle pour Shaquille O'Neal lorsqu'il était de passage à Paris.
Oui.
Et vous vous êtes entraîné avec lui. Alors,
très grand souvenir.
Est-ce que c'est possible de s'entraîner avec Shaquille O'Neal?
Oui. Attends, non, mais c'était absolument génial. En fait, il est venu pour faire son concert de rap au Zénith où j'ai été l'animateur. Donc j'étais un peu comme pour Jordan, plusieurs fois d'ailleurs, mais surtout en 90, j'étais journaliste, traducteur, guide, accompagnateur et tout ça. Parce qu'on est allé dans les banlieues, Reebok, Blacktop à l'époque. Donc, et en plus, j'étais assez proche de Shaq parce que j'ai même pu m'entraîner avec le Magic d'Orlando à Orlando pendant mes vacances d'été. Quand il manquait un dixième homme, des fois, je jouais avec eux et tout. Mais bon, donc Shaq, je l'ai croisé beaucoup. En fait, c'est avec Shaq que j'ai eu la relation peut-être le plus personnel et le plus amical de tous les joueurs NBA. À cause de Orlando, etc., etc. Nos âges aussi, et puis c'était une époque où il était vraiment une superstar et tout. Mondial Basket, il y avait plein de choses. Donc, je fais ce truc avec Shaq, et il voulait s'entraîner avec ses oncles qui sont ses gardes du corps. On avait des espoirs de Levallois. Christophe Desrolles, qui était un journaliste Mondial Basket, très pote avec Shaq. Donc, quelques privilégiés. Et oui, on a joué. Et en plus, on a fait plein de trash talking, parce qu'une fois, je pars en contre-attaque, je fais une grosse feinte de grand-père à droite, Shaq, il mord dans la feinte et je fais un double pas juste devant lui. J'ai dit in your face, je te jure.
Ah bah, vous
non, mais
déguster.
C'est parce que franchement, c'était presque un pote. On n'était pas des amis très intimes, mais honnêtement, on était des potes. Donc, Je te jure, c'est la vérité. Donc, je marque devant lui. J'ai dit, in your face, Shaq. Il dit, ah bon, on va jouer comme ça? Donc, il prend le ballon, il fait une coast-to-coast et il pète un dunk. Ah. Et t'as tout le support du panier qui chavire comme à l'époque de Wilt Chamberlain pendant 3 minutes, tu vois. En plus, après, il a fait 2 autres dunks de suite parce qu'il voulait vraiment appuyer là-dessus. Mais bon, ça, c'est une des rares fois où j'ai vraiment pu m'entraîner avec un joueur NBA dans son intimité personnelle, quoi.
Ouais, ça a l'air d'être quand même un sacré souvenir. Vous l'avez défendu au poste un petit peu ou pas du tout?
On a dû switcher et j'ai dû défendre un peu sur lui. Mais bon, je n'ai pas joué physique avec Shaquille O'Neal.
Vous avez
pas
essayé,
quoi. J'ai reculé, j'ai dit, vas-y, shoot. Mais surtout, ne me pétez pas un nouveau dunk sur la tronche.
Ça doit être terrifiant. Après tout ça...
Attends, on n'a pas parlé de son concert de rap.
Ah ben, allez-y.
Où il a fait avec Fush Nickens.
Alors, c'est qui Fush Nickens? J'ai vu ça sur le...
C'était un groupe de rap. Ils ont fait un disque avec Shaq. Alors, ça, c'est l'anecdote cute. Donc, le Zénith est rempli et ils attendent le truc. Et puis, Fush Nickens et Shaq, ils disent, mais vous nous avez promis du Kentucky Fried Chicken dans notre loge. Et il n'y en a pas. Alors, le problème, c'est que les organisateurs... Sur Kentucky Fried Chicken, à l'époque, c'était à la porte d'Italie.
D'accord.
Donc, ils envoient un émissaire chercher ça, mais avec les embouteillages et tout ça, le mec, il met un temps fou à ramener le Kentucky Fried Chicken qui, en plus, devait être froid après 1 heure dans la bagnole. Et ils disent, nous, on ne commence pas ce concert de rap avant d'avoir reçu notre Kentucky Fried Chicken. Mais tu vois le truc délirant, là? Et moi, j'étais là, mais les gars, soyez adultes. Il y a 6000 personnes qui commencent à huer. Donc, en fait, ça a commencé avec 1 heure et demie de retard. Et moi, tous les 10 minutes, je devais aller me faire huer. Bon, Fustig et Shaq, ils ne sont pas encore prêts, mais le concert va démarrer. Soyez patients. Wouhou! Dégage! Voilà. C'était vraiment une soirée mémorable.
Le KFC est en route, ils arrivent. Quoi.
Et c'est arrivé, ils ont mangé et ils ont fait leur concert de rap.
Incroyable. Après tout ça, Georges, vous avez, on va terminer là-dessus, vous avez récemment eu droit à un bel article, c'était il y a peut-être un an, dans le New York Times.
Oui.
Ça vous a fait plaisir un peu d'être reconnu dans votre pays aussi?
Oui, oui. C'est une sorte de consécration, autant plus que mon père et toute ma famille, il y a beaucoup d'intellectuels dans ma famille, le New York Times, c'était leur Bible. C'est-à-dire qu'ils habitaient à Washington ou en Floride, mais ils lisaient quand même le New York Times systématiquement parce que c'était le journal un peu le plus à gauche, le plus compétent et le plus réputé. Donc, le plus drôle, c'est qu'il y a eu un petit truc dans le New York Times la première année à Bagnolet. Ça parlait un peu des joueurs américains qui jouaient à l'étranger. Et j'ai été interviewé par Samuel Apt, qui était un journaliste sportif légendaire du Herald Tribune, qui a fait l'interview et c'est passé dans le New York Times et c'était même dans les magazines qu'on trouvait dans les avions.
D'accord.
C'était un truc de dingue. Et j'ai été cité 3 fois là-dedans. Donc ça, c'était déjà une sorte de consécration. Ma famille dit « Ah, George a répondu à des questions dans le New York Times. C'est incroyable, c'est pas possible. » Et donc, c'est arrivé en 77 et c'est arrivé l'année dernière. Et donc, c'était la nouvelle génération, notamment de ma famille et de mes amis de longue date en Floride. Ils ont vu ça, ils ont dit « Tiens, bravo gamin, t'as réussi. C'est un peu le nec plus ultra qu'on peut espérer pour un journaliste, quoi.
Bon, et ça allait être ma dernière question, mais vous y avez déjà un peu répondu tout à l'heure. Du coup, Georges Hédy, à la retraite, vous restez en France. Alors, la France vous
garde.
Ah
oui, c'est un... Par contre, je vais beaucoup voyager. Avec ma femme, ça va être les îles grecques, les îles Canaries. Nous avons une maison dans le Luberon. En fait, on va aller là où il fait beau tout le temps. C'est fini, la grisaille parisienne.
Vous avez bien raison.
Ça, c'est vraiment le truc qui nous déprime le plus. C'est quand on a 3 semaines de grisaille et de petites pluies et du froid. Donc ça c'est le base pour ma retraite, c'est d'être toujours au soleil. Il va faire toujours l'été. On peut toujours se baigner et faire des petits shoots sur un terrain en plein air. avec les vieillards.
Et alors, c'est ce que j'allais dire, vous avez joué au basket jusqu'à ce que vos genoux disent stop, quoi, grosso modo.
Oui, alors j'ai la chance de ne pas avoir eu encore en tape du bois. J'ai jamais eu de graves blessures. Bon, maintenant, je joue au ralenti. Avec moi, vous avez la vitesse réelle et le ralenti en même temps.
Vous m'aviez prévenu, je me rappelle, la première fois, quand vous nous avez invités à jouer, vous m'avez dit, moi, de toute façon... Je trottine, je prends mon shoot et je repars dans l'autre sens.
Oui, c'est voilà, ça.
Quelque chose comme ça, vous m'aviez dit. Et vous m'aviez dit, par contre, ça rentre. Je crois que vous me l'aviez précisé, je suis
plus sûr. Parce que j'ai compris aussi que si je fais trop de sprint ou je passe dans le rouge, le lendemain, j'ai du mal à sortir du lit. Donc, je joue à mon petit rythme, je ne joue pas trop longtemps, mais je peux encore jouer et parfois prendre du plaisir. J'espère continuer. J'ai vu des messieurs en ancien, il y en a un qui avait joué jusqu'à 83 ans, mais bon, il s'est chauffé, quoi. Mais déjà, il était encore dans le milieu basket avec ses potes, ses vieux et tout ça. Et j'aime ça. Je me vois aussi coacher éventuellement. Je coach déjà l'équipe première en ancien du Vésinet quand on est à domicile. Donc, je vais rester dans le milieu d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de souci.
Eh bien, Georges, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir répondu à cette invitation.
C'était un vrai plaisir. Et j'espère surtout qu'il y aura des choses nouvelles et différentes pour les oreilles de tes auditeurs.
Eh bien, écoutez, en tout cas, on a battu notre record d'émission la plus longue. Je crois que ça va être la première fois qu'on va devoir la mettre en ligne en deux parties parce qu'il y a tellement de choses. Mais c'était un vrai plaisir et ça fait toujours plaisir de battre des records de durée parce que ça veut dire qu'on s'amuse, qu'on discute et qu'on apprend plein de choses. Et on espère en effet que ce sera le cas pour nos auditeurs. Mais j'en doute pas. Moi-même, j'ai appris plein de choses alors qu'on se côtoie un petit peu et c'était vraiment passionnant. Et voilà,
je vous souhaite... C'est une sorte de continuation de notre année ensemble sur le Hoopcast, que je regrette encore aujourd'hui la disparition de ce très beau produit.
Bon, en tout cas, c'était un plaisir d'avoir fait cette année-là avec vous. On se voit encore. Bon, on donne des noms de sponsors, mais on bosse encore un peu ensemble avec Unibet. On fait plein de choses. Donc,
tout à fait.
Donc, c'est toujours un plaisir, en tout cas, Georges. Et je mets une petite note personnelle à la fin parce que je me rappelle que je vous l'avais dit la première fois qu'on s'est rencontré à Dailymotion après une réunion. J'étais venu vous voir après parce que j'étais un petit peu penaud et j'étais un petit peu intimidé. Et je vous avais dit, bon, on va travailler ensemble, mais je vous ai écouté aussi pendant toute mon enfance et ça va me faire très bizarre de travailler avec vous au début. Je suis très honoré et je vous le redis parce que ça a été un vrai plaisir de bosser avec vous pendant toute cette année sur le Hoopcast et de le faire encore de temps en temps. Donc voilà, c'était un vrai plaisir et je vous remercie encore une fois. Je remercie aussi ceux qui nous ont suivis donc pour cet épisode de 48. Je crois que c'était le 8e si je ne dis pas de bêtises. On vous rappelle que si vous aimez l'émission, vous pouvez la soutenir sur Tipeee. Il n'y a pas de pub dans le podcast. On vous remercie tous qui nous suivez. Je vous remercie encore une fois, Georges. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et notamment pour la retraite sous le soleil dans quelques années et surtout pour plein de matchs de basket qui arrivent sur Canal Afrique, la Basketball Champions League et toutes les bonnes choses que vous avez actuellement.
Et l'équipe de France.
Il va y avoir plein de bonnes choses. Merci beaucoup, Georges.
Merci, Alain.
On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode de 48. Ciao, ciao. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.